J'ai intitulé ce sermon « La mission de l'Église ». Les paroles qui viennent d'être lues sont des paroles de l'apôtre Paul dans sa lettre aux chrétiens de Philippe, aux chrétiens de la ville de Philippe. Et c'est vrai que toutes les paroles de ce genre-là que Paul prononce ou écrit dans ses épîtres ont un caractère d'urgence. Aujourd'hui, la question est, quelle est la mission de l'Église ? Et dans ces quelques versets qui viennent d'être lus, Paul explique ce qu'est cette mission. Alors bien sûr, la mission est une mission de très haute importance. Paul emploie des mots très forts. Et les premières paroles que Paul emploie ici, c'est au verset 12, « Travaillez à votre salut, ou mettez en œuvre votre salut. » Il n'est pas question ici de travailler afin d'être sauvé. Il n'est pas question ici, pour l'apôtre Paul, de faire des œuvres afin de mériter le salut. Vous le savez, la Bible le dit, le Nouveau Testament, l'Évangile, les apôtres dans leurs épîtres le disent, le salut est un don de Dieu. C'est un don gratuit. C'est une grâce de Dieu. C'est Jésus qui a payé le prix pour que nous soyons pardonnés de nos péchés, pour que nous ayons la possibilité de commencer une vie nouvelle. C'est Jésus qui a tout payé, qui nous a rachetés à un grand prix, comme dit Paul dans la première lettre aux Corinthiens. Et donc tout ce qui va suivre va être plutôt la suite logique de ce don que Dieu nous fait par Jésus-Christ. Quand Paul dit « travaillez avec votre salut », il y a plusieurs traductions et je note particulièrement ces quelques traductions « mettez votre salut en action ». Ensuite, il y en a une autre qui dit « travaillez à l'achèvement de votre salut ». Bon, ça ne veut pas dire non plus que notre salut offert, acquis par Jésus-Christ, n'est pas encore parfait et qu'il faudrait y ajouter quelque chose. Vous le savez, ce n'est pas ça non plus le sens. Il y a une autre traduction qui dit « faites fructifier votre salut ». C'est-à-dire faites en sorte que votre salut porte du fruit. Et je crois que c'est plutôt dans cette pensée-là que Paul écrit. Vous savez, quelquefois quand on passe un examen, quand on a un diplôme, on a l'impression, là je m'adresse quand même à un certain nombre de jeunes qui sont peut-être encore sur ce chemin-là, et à d'autres qui l'ont vécu dans le passé, quand on passe un examen et qu'on réussit son diplôme, on a toujours un petit sentiment d'achèvement. Je me souviens quand j'étais jeune, ça remonte à un certain temps, d'après la couleur de mes cheveux, quand, à l'époque, le diplôme majeur, c'était le bac. Bon, c'était dans les années 60. Oui, la fin des années 60 que j'ai eu ce bac. Et alors, on me faisait comprendre que si je n'avais pas le bac, je n'étais pas grand-chose. Alors, je sais qu'aujourd'hui, on demande plus. Aujourd'hui, on veut aller plus loin, et c'est bien. Et on a toujours l'impression que quand on a un examen, on a réussi quelque chose et c'est déjà bien. Un petit peu comme lorsque, vous savez que nous sommes en France dans un temps d'élection. Je ne vais pas vous en parler beaucoup cet après-midi, hein. Vous en entendez suffisamment, peut-être même trop parler tous les jours. Mais je voudrais simplement dire ceci. On a parfois l'impression, quand il y a des élections quelque part, ou mettons en France, ou ailleurs, c'est que le jour du deuxième tour, comme c'est chez nous, en France, le jour du deuxième tour, quand on nous annonce qui a gagné, on a l'impression que c'est comme si l'homme était champion du monde. Voilà, il est arrivé. Alors qu'en réalité, c'est comme quand on a un diplôme, c'est que le début. Maintenant qu'on a le diplôme, il va falloir travailler. C'est maintenant que tout commence. Et je crois que c'est pareil pour une élection. Le président est élu, maintenant au travail. L'élection n'est pas le but. Eh bien, quand nous sommes sauvés par Jésus, il en est de même. Nous avons été sauvés, maintenant nous n'allons pas nous asseoir, nous reposer et puis attendre la suite, comme lorsque peut-être un jour nous arriverons en retraite. Bon, peut-être j'en suis plus près que certains d'entre vous, ça c'est sûr. Mais quand on arrive à la retraite, on peut se dire « bon, maintenant c'est fini ». Non, la vie continue. Et quand on est chrétien, bien sûr, on ne s'arrête pas en si bon chemin. Alors, Paul dit « faites fructifier ». Votre salut, ou comme il est écrit ici, travaillez. Travaillez pour que votre salut ait un sens. Il y a cette maxime que l'on employait il y a bien des années et qui est toujours d'actualité. On est sauvé pour servir. On n'est pas sauvé pour être tranquille maintenant. On est sauvé pour se rendre utile. Jésus nous a rachetés. Vous savez, quand on rachète quelque chose, ce n'est pas pour le plaisir de dépenser de l'argent. Si par exemple vous rachetez une maison qui est en vente, vous ne l'achetez pas simplement pour pouvoir dire « Ah ben je suis content, j'ai dépensé de l'argent, j'ai acheté cette maison ». Non, on achète une maison pour en faire quelque chose, soit pour y habiter, soit pour la louer, pour que d'autres gens y habitent et que cela rapporte de l'argent. Le salut, il en est de même. Si Paul dit « travailler à votre salut », c'est pour que nous puissions faire fructifier ce salut et le rendre utile à Dieu. Jésus nous a rachetés, dorénavant nous lui appartenons et nous allons maintenant pouvoir être utilisés par lui. J'aimerais développer trois idées maintenant, pendant les minutes qui nous restent. Et la première de ces idées, il y a trois idées. La première, c'est que dans notre vie de chrétien, nous menons une vie sérieuse. Je ne dis pas que nous devons avoir une figure sérieuse tous les jours, ou un visage austère, non. Mais une vie que nous devons prendre au sérieux. Deuxièmement, c'est une vie dans laquelle nous devons nous efforcer, d'après la Bible, de devenir plus ou moins, plutôt plus que moins, parfait. Selon la parole de Jésus, devenez donc parfait ou soyez donc parfait comme votre Père céleste est parfait. Et puis enfin, j'aimerais développer cette idée que la vie que Jésus nous offre par le salut, c'est une vie glorieuse. C'est une vie qui porte une mesure de gloire. Alors d'abord, une vie sérieuse, ou une vie, comme j'ai dit tout à l'heure, que nous devons prendre au sérieux. Il y a quelques semaines, je crois, j'avais parlé en passant de ce personnage biblique bien connu qui s'appelait Noé. Et j'avais dit, il me semble que Noé avait entendu la voix de Dieu, Dieu lui avait parlé, il avait été, comme dit l'Épître aux Hébreux, divinement averti, c'est-à-dire averti par Dieu, que des choses graves allaient se produire sur la terre. Et il nous est dit que Noé avait ressenti une crainte respectueuse pour Dieu. En quelque sorte, en entendant la parole de Dieu, Noé a pris cette parole au sérieux. C'est un petit peu la démarche de tous les chrétiens. Quand on croit au message de Jésus, on le prend au sérieux. Il y a beaucoup de gens qui ont entendu le message de Jésus sur cette terre et dans tous les siècles. Mais un nombre assez limité ont cru ce message. D'une certaine manière, on pourrait dire, beaucoup de gens ont déjà entendu l'Évangile, il en reste encore pas mal qui doivent l'entendre, mais beaucoup de gens ont, pendant leur vie, à un moment ou un autre, entendu le message de l'Évangile. Mais un petit nombre, ou un nombre assez limité, l'ont pris au sérieux. Prendre la vie chrétienne au sérieux, c'est partir du principe que, puisque Dieu a parlé, maintenant nous avons une responsabilité. C'est de mettre en pratique, et c'est dans ce sens qu'il faut entendre l'expression « travailler avec son salut, avec crainte et tremblement », c'est prendre au sérieux ce que Dieu dit, prendre au sérieux ce que Dieu dit concernant l'avenir, concernant notre vie, savoir que Dieu a fait des promesses et que nous pouvons les croire et nous appuyer sur elles. Il y a dans la Bible cette image, je crois que vous la connaissez, c'est l'image de la reine Esther. Vous vous rappelez cette jeune fille juive qui avait été choisie par le roi de l'Assyrie, au Moyen-Orient, en Orient, pour être sa femme. Du jour au lendemain, cette jeune fille orpheline, qui avait été élevée par son cousin, était devenue reine. À un moment crucial, parce que le peuple juif qui habitait dans ce pays là-bas, qui était en exil ou déporté dans ce pays, était sur le point d'être massacré. La reine Esther a pu penser pendant un instant que ça y est, elle vivait le rêve de sa vie, elle était devenue reine, elle n'avait jamais peut-être rêvé cela, et puis c'est arrivé. Vous savez, quelquefois, il faut quand même dire, la vie, parfois, nous révèle nous réserve de bonnes surprises. Il n'y a pas que des mauvaises surprises dans la vie. Il y a aussi de bonnes surprises, et quand on est chrétien, on peut d'autant plus s'y attendre. Alors, du jour au lendemain, elle est devenue reine. Du jour au lendemain, elle a vécu comme dans un rêve. Du jour au lendemain, sa vie financière, bien sûr, mais sa vie tout court, a été transformée, une autre vie a commencé pour elle. Mais, parce qu'elle vivait un grand privilège, elle avait aussi une grande responsabilité. Et vous savez que c'est son cousin Mardoché, cela est raconté dans le livre d'Esther, dans la Bible, son cousin Mardoché lui a fait comprendre très vite qu'il y avait comme une collision entre deux événements. Elle était devenue reine et en même temps, les Juifs risquaient d'être anéantis. Alors Mardoché a tout de suite vu le rapport entre les deux. Dieu, probablement, dit-il à sa cousine Esther, Dieu probablement t'a fait monter sur le trône pour que tu agisses, pour éviter ce massacre. Et c'est tout le message du livre d'Esther. Il y a là une image très forte. Dieu nous fait un privilège, il nous offre des promesses, il nous offre une nouvelle vie, mais en même temps, il nous donne une nouvelle responsabilité. C'est en ce sens que nous devons prendre la vie que Dieu nous donne au sérieux, comme Esther a très vite compris, parce que son cousin Mardoché le lui a expliqué, que la vie nouvelle qu'elle vivait était une vie de grande responsabilité. Dans le texte qui a été lu, qui est à l'écran, il nous est dit que nous devons faire toutes choses sans murmure ni hésitation. Et au verset 15, il est dit « afin que nous soyons irréprochables et purs ». Afin que nous soyons irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables, au milieu d'une génération perverse et corrompue, eh bien, cela nous montre aussi toute la responsabilité du chrétien. Nous devons vivre une vie qui va tendre vers la perfection. L'un des buts de notre vie, ça peut paraître extraordinaire ou très élevé comme défi, l'un des buts de notre vie pour Dieu, c'est que nous soyons toujours plus proches de la perfection. Dieu ne dit pas que nous serons parfaits pendant cette vie. La perfection est plutôt réservée pour la vie après la mort ou après l'enlèvement de l'Église. Mais sur cette terre, nous devons tendre à la perfection. Je citais ce texte tout à l'heure où Jésus dit « Devenez donc ou soyez donc parfaits comme Dieu, votre Père céleste, est parfait. » Nous devons tendre à la perfection parce que c'est comme cela seulement que nous pourrons être utilisés par Dieu. Nous devons être purs, dit Paul, et irréprochables. Irréprochables dans quel sens? Je crois que nous devons devenir irréprochables dans le sens que pour être de bons chrétiens, pour être des chrétiens utiles, pour être des chrétiens dont la vie, dont le salut va porter du fruit, nous devons nous efforcer de vivre d'une manière que l'on ne puisse pas nous faire de reproches qui puissent retomber sur Dieu. Je prends un exemple biblique. Rappelez-vous le roi David. Le roi David a été appelé un homme selon le cœur de Dieu. Ce n'était pas un homme parfait. Il s'est efforcé de l'être, mais vous le savez comme moi, à un moment un peu délicat de sa vie, au lieu de partir au combat, il a commis une très grave faute, un adultère, qu'il a essayé de camoufler par un meurtre. C'était une faute, bien sûr, d'une très grande gravité. Qu'a dit Dieu dans ce moment-là? David était le roi d'Israël. Il était quelque part le représentant de Dieu parmi le peuple. Dieu l'avait choisi parce que le roi d'avant n'avait pas été fidèle à Dieu. Il a choisi David parce qu'il a vu dans son cœur une bonne disposition envers Dieu. Et la Bible dit que Dieu avait choisi cet homme qui était vraiment un homme selon son cœur. Donc un homme dont le comportement, dont la vie lui plaisait. Dieu donc se manifestait d'une certaine manière par la personne de David, qui était un bon roi, un roi fidèle à Dieu. Mais lorsque David a commis cette grave faute que je viens de mentionner, Dieu lui a fait le reproche d'avoir poussé les ennemis de Dieu, les non-croyants, à blasphémer le nom de Dieu. Cela veut dire que lorsque David a commis cette grave faute, qui a été bien sûr connue d'un certain nombre de gens, les gens qui ne croyaient pas en Dieu ou qui n'aimaient pas Dieu ont parlé mal de Dieu comme disant « Le roi David est un roi qui, paraît-il, plaît à Dieu, il respecte Dieu, il honore Dieu, mais vous avez vu comment il se comporte. Et cela veut dire que quand nous sommes enfants de Dieu, notre vie doit être une vie qui tente à être irréprochable. Nous devons garder ce but en tête parce que Dieu veut pouvoir parler aux gens qui nous entourent par le moyen de notre vie. J'ai parlé il n'y a pas longtemps de ce que Noé était un prédicateur de la justice, donc il était, j'avais dit, je crois que nous étions tous des prédicateurs par notre vie, notre façon de vivre, la manière dont nous nous comportons, les décisions que nous prenons, sont des témoignages qui peuvent aider à glorifier le nom de Dieu. Dans le cas contraire, le cas du roi David que nous examinons ici, un mauvais comportement de notre part peut être une occasion pour ceux qui ne croient pas en Dieu de blâmer Dieu et de nous blâmer à cause de ce que nous avons fait. L'apôtre Paul parle aussi, je vais y aller rapidement parce que ce n'est pas le point essentiel, mais l'apôtre Paul mentionne cependant que nous ne devons pas murmurer, c'est au verset 14, nous ne devons pas faire preuve de murmure. Et vous savez que le murmure, on le trouve souvent dans la Bible. Les enfants d'Israël dans le désert murmuraient contre Dieu parce que la vie qu'ils menaient dans le désert était pour eux une vie difficile. Ce n'était pas une vie toujours confortable. Dans la Bible, nous voyons souvent la foule des gens qui suivent Jésus murmurer parce qu'ils ne comprennent pas tout ce que Jésus dit. On voit souvent des gens murmurer dans la Bible. Le murmure exprime l'insatisfaction. Et le murmure, nous devons le combattre parce que le murmure exprime le manque de foi en Dieu. Nous murmurons quand nous ne sommes pas contents. Dieu dit, Paul dit, que nous ne devons pas pratiquer le murmure ni l'hésitation. Alors le dernier point, c'est qu'il y a dans toute vie chrétienne une mesure de gloire. Le mot gloire est un mot qui revient souvent dans la Bible. Dieu est un Dieu de gloire. La Bible parle beaucoup de la gloire de Dieu. Dans le cas de la reine Esther, que j'ai cité tout à l'heure et auquel je voudrais revenir maintenant, lorsque la reine Esther a écouté son cousin qui lui disait « Tu dois intervenir auprès du roi pour empêcher que notre peuple soit exterminé », la reine Esther a pris des risques. Vous savez qu'en ce temps-là, une reine, même si elle était reine, n'avait pas le droit d'entrer en présence de son mari, le roi. Aujourd'hui, on dirait, mais c'est son mari. Si la femme ne peut pas aller voir son mari quand elle veut, qu'est-ce que c'est que cela? Mais à l'époque, c'était comme cela. Aujourd'hui, c'est différent. Les mœurs ont évolué. En principe, une femme peut quand même rentrer généralement, les maris et les femmes ont le même appartement. Bon, dans ce temps-là, les rois avaient leur appartement, la femme avait son appartement. Et là, à cette époque-là, il semble bien, d'après le texte de la Bible, que la reine Esther n'avait pas le droit de rentrer en présence du roi, c'est-à-dire dans la pièce où se trouvait le roi, sans que le roi l'ait appelée. Si elle rentrait sans permission, comme on le fait aujourd'hui bien sûr, elle risquait même sa vie. Si le roi était de mauvaise humeur, s'il sentait que sa femme avait, méprisé son autorité de mari et de roi, alors la femme pouvait être mise à mort. D'ailleurs, la femme précédente que le roi avait eue avait été renvoyée pour un comportement qui n'avait pas plu au roi. Il n'est pas dit qu'elle avait été mise à mort. Mais la femme pouvait risquer sa vie, c'est ce que la reine Esther dit à son cousin. Et puis finalement, elle dit, « Puisque mon peuple est en danger de mort, je vais aller voir le roi. S'il m'écoute, le peuple sera sauvé. S'il ne m'écoute pas, eh bien tant pis. Arrivera ce qui arrivera. » Et vous le savez, l'histoire se termine bien, le roi laisse entrer sa femme sans rien lui dire, sans lui faire de reproches, il l'écoute et il intervient pour sauver le peuple d'Esther, le peuple juif. Et c'est là que nous voyons la mesure de gloire. Parce qu'elle a risqué sa vie, parce qu'elle a compris qu'elle était un instrument entre les mains de Dieu, parce qu'elle a compris qu'elle est arrivée sur le trône de reine à un moment crucial pour se rendre utile à son peuple, et au peuple qui était le peuple de Dieu, la reine Esther a connu la gloire. Quelle gloire? Celle de voir son peuple sauvé. Dans la vie chrétienne, il y a aussi une mesure de gloire. Quand, par exemple, on parcourt le livre des Actes des Apôtres, on ne peut pas dire que le livre des Actes des Apôtres ne soit pas un livre de gloire. On voit dans ce livre des Actes des Apôtres, moi j'aime bien le relire de temps en temps, parce que c'est un livre qui est très encourageant, qui montre toute la gloire et la puissance de Dieu dans la vie de ses enfants. Dans le livre des Actes des Apôtres, on voit la gloire de Dieu, j'allais dire tous les jours, à toutes les pages. Dieu intervient pour sauver son peuple, Dieu intervient pour guérir des malades, Dieu intervient pour dénouer des situations compliquées, Dieu conduit son peuple à l'assaut du monde de leur époque et il permet à son peuple de prêcher l'évangile partout, aux alentours dans leur monde, dans leur société de l'époque. La parole de Dieu, ici, dans l'Épître aux Philippiens, Paul dit « Vous devez briller dans cette génération perverse et corrompue comme des flambeaux portant la parole de vie. » Nous devons briller comme des flambeaux. Là aussi, c'est une image qui rejoint l'image de la gloire. Dieu dit, Jésus a dit à ses disciples « Vous êtes la lumière du monde. » Il avait dit d'abord « Je suis la lumière du monde. » L'évangéliste Jean, dans son évangile, dit « Jésus était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tous les hommes, tous les êtres humains. » Mais Jésus, après avoir enseigné ses disciples, comme nous sommes nous aussi des disciples de Jésus, au bout d'un certain temps, Jésus a commencé à leur dire « Maintenant, c'est vous qui allez être la lumière du monde. » Chaque chrétien est une lumière. C'est notre part de gloire. Nous n'avons pas à nous vanter, puisque nous n'avons aucun mérite. Mais Jésus, Dieu, a choisi de faire de nous des lumières. Ce sont les flambeaux dont Paul parle ici, des flambeaux qui doivent briller. La mission de l'Église, la mission des chrétiens, c'est de briller au milieu d'un monde qui ne connaît pas Dieu. La majeure partie des hommes et des femmes qui vivent dans ce monde ne connaissent pas le Dieu de la Bible. Mais Jésus dit, vous êtes, vous, la lumière du monde. Pourquoi ? Parce que Dieu nous a éclairés, il nous a éclairés sur ce que était notre vie, sur notre vie passée. Il a fait de nous de nouvelles créatures, c'est ce que dit Paul aux Corinthiens, vous êtes de nouvelles créatures, les choses anciennes sont passées, maintenant vous êtes des hommes nouveaux, des femmes nouvelles. Nous sommes des êtres nouveaux et Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Par notre vie, par notre comportement, je reviens encore à l'image de Noé, Noé a été une lumière pour ses contemporains. Apparemment, d'après la Bible, seule sa famille s'est laissée éclairer par lui. Mais dans tous les temps, dans tous les siècles, dans tous les pays du monde, les chrétiens sont regardés par Dieu comme étant des lumières, comme étant des flambeaux qui doivent briller dans le monde. Alors, je rappelle, nous vivons une vie sérieuse, c'est-à-dire une vie que nous devons prendre au sérieux. Nous vivons une vie qui doit tendre vers la perfection, pardon, et Dieu nous aidera dans cela. Et nous vivons une vie qui est empreinte de gloire, parce que nous sommes maintenant, dit Jésus, la lumière du monde. Je conclurai en disant ceci. Nous portons la parole de vie, dit Paul dans cet épître. L'Évangile, si nous le croyons, si nous croyons qu'il est vraiment la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui transforme l'être humain, qui lui donne une nouvelle vie, l'Évangile nous apporte la vie. Et il apportera la vie à tous ceux qui l'entendront et qui le croiront. Notre mission est donc, pour reprendre le titre de cette méditation, notre mission est donc, premièrement, de croire la parole de Dieu, deuxièmement, de vivre dans la crainte de Dieu, une crainte, comme je l'avais dit la dernière fois, qui n'est pas une crainte qui nous fait trembler jour et nuit. Nous ne tremblons pas jour et nuit devant Dieu, nous avons du respect pour lui. Nous avons un amour et une crainte respectueuse, c'est-à-dire que lorsque Dieu parle, comme il parle dans sa parole, par exemple, nous croyons ses paroles et nous conformons notre vie à son enseignement. Nous écoutons sa parole, nous nous nourrissons, pour prendre une autre image biblique, de sa parole, et nous allons chaque jour vivre en mettant cette parole en pratique. Et c'est en mettant cette parole en pratique que nous pourrons être des lumières dans un monde que l'Évangile appelle un monde de ténèbres. Et nous voulons être de bons représentants de Dieu sur cette terre, des représentants qui vivent dans l'humilité. Parce qu'encore une fois, comme je l'ai dit au départ, nous n'avons aucun mérite. C'est Dieu qui nous a fait grâce. Il nous a fait grâce pour que nous devenions des enfants de Dieu qui seront comme des lumières dans ce monde. Que Dieu nous bénisse et nous aide à le pratiquer chaque jour. Que Dieu vous bénisse.